Le fait d'écrire l'histoire est en grande partie un processus de diversion. La plupart des comptes rendus historiques détournent en réalité l'attention des influences secrètes qui se sont exercées sur les événements importants. Le Bashar Teg. Quand on le laissait tranquille, Idaho en profitait souvent pour explorer le non-vaisseau qui lui servait de prison. Il y avait tant à voir et à apprendre sur cette réalisation ixienne. C'était une véritable caverne au trésor. Interrompant sa déambulation nerveuse à travers les quartiers qui lui étaient réservés, il fixa son regard sur l'un des minuscules œil-com incorporés à la surface brillante d'un encadrement de porte. Il était observé en permanence. Il avait la curieuse sensation de se voir lui-même à travers ses yeux indiscrets. Que devaient penser les sœurs en le regardant? L'enfant gola athlétique de la citadelle, depuis longtemps disparu de gameux, était devenu un homme maigre, au teint et aux cheveux foncés. Sa chevelure avait beaucoup poussé depuis qu'il était monté à bord de ce non-vaisseau, dans les jours qui avaient précédé la destruction de Dune. Les yeux du Bene Gesserit étaient capables de voir au travers de la chair. Il était sûr qu'elle le soupçonnait d'avoir des pouvoirs de Mentat, et il se demandait comment elle devait interpréter cela. Comment un Mentat pouvait-il espérer cacher longtemps la vérité à des révérendes mères? Ridicule. Il savait qu'elle lui attribuait déjà le talent de diseur. Agitant la main dans la direction des œil-com, il déclara « J'en ai assez. Je vais explorer un peu. » Bayonda détestait qu'il prenne cette attitude railleuse face au système de surveillance. Elle n'aimait pas non plus qu'il vagabonde dans tout le vaisseau. Elle n'essayait pas de le lui cacher. Chaque fois qu'elle se trouvait devant lui, il voyait la question muette sur ses traits âpres. « Est-il en train de chercher le moyen de s'enfuir ?»« Précisément ce que je fais, Bay, mais pas de la manière que tu imagines. » Le non-vaisseau lui fixait des limites impératives. Le champ de force extérieur qu'il ne pouvait franchir, certaines salles des machines ou les réacteurs, lui avait-on dit, avaient été mis temporairement hors service. Les quartiers réservés aux gardes, il pouvait en apercevoir une partie mais n'avait pas le droit d'y entrer. L'armurerie, le secteur réservé aux prisonniers Tleilaxu, Sital. Il avait quelquefois rencontré celui-ci à l'une des barrières et il s'était longuement dévisagé de part et d'autre du champ de force insonore qui délimitait leurs territoires respectifs. Mais il n'y avait pas que ces barrières-là. Il y avait également le mur des informations, des sections entières des archives qui demeuraient sans réponse à ces questions. Toutes sortes de domaines auxquels il n'avait pas accès. Compte tenu de ses limites, il lui restait toute une vie de choses à voir et à apprendre, même en estimant raisonnablement son espérance de vie à quelque 300 années standard. À moins que les honorés matriarches ne nous trouvent d'ici là. Idaho se considérait comme le gibier principal de ses furies. Elle voulait mettre la main sur lui encore plus que sur les femmes du chapitre. Il ne se faisait aucune illusion sur le sort qu'elle lui réservait. Elle savait qu'il était ici. Les mâles qu'il formait aux techniques d'asservissement sexuel et qui étaient envoyés exercer leurs ravages parmi les honorés matriarches représentaient une source d'irritation constante pour ses furies. Quand les sœurs apprendraient qu'il était un Mentat, elles comprendraient aussitôt qu'il se remémorait plus qu'une vie de Gola. L'original ne possédait pas ce talent. Elles le soupçonneraient d'être un Kwisatz Haderach en puissance, à preuve qu'elle lui rationnait déjà le mélange. Elles étaient de toute évidence terrorisées à l'idée de refaire la même erreur qu'avec Paul Atréide et son tyran de fils. 35 siècles de servitude. Dans ses relations avec Murbella, toutefois, il avait besoin de toutes ses facultés Mentat. Il abordait chacune de ses rencontres avec elle sans songer à trouver de réponse, ni maintenant ni plus tard. C'était là une approche typiquement Mentat, se concentrer uniquement sur les questions. Les Mentat accumulaient les questions comme d'autres avaient tendance à accumuler les réponses. Les questions créaient leur propre trame et leur propre système. C'était cela qui aboutissait aux formes reconnaissables. Chacun voyait son univers à travers des trames qui s'étaient créées d'elles-mêmes, composées d'images, de mots, de désignations parfaitement temporaires. Le tout mêlé en un faisceau d'impulsions sensorielles qui se réfléchissait sur ses constructions intérieures de la même manière que la lumière était renvoyée par une surface brillante. Le premier instructeur Mentat de Duncan Idaho avait élaboré une configuration provisoire de mots pour décrire cette fragile construction. Surveillez les moindres mouvements significatifs sur vos écrans intérieurs. Depuis ce premier pas hésitant dans l'univers des pouvoirs mentat, Idaho pouvait suivre à la trace l'évolution dans ses observations de sa propre sensibilité au changement. De plus en plus, il devenait mentat dans l'âme. Peyonda était l'épreuve la plus difficile à affronter. Il redoutait son regard pénétrant, ses questions incisives. Mentat contre mentat. Il ripostait à ses attaques en usant de douceur, de réserve et de patience. Mais que veut-elle? Comme s'il ne le savait pas très bien. Il portait la patience sur son visage comme un masque, mais la peur lui venait naturellement et il n'y avait pas de honte à le montrer. Beyonda ne cachait pas qu'elle souhaitait sa mort. Idaho acceptait le fait que ses observatrices ne verraient bientôt qu'une source possible au talent qu'il était obligé d'exhiber. La véritable force d'un mentat résidait dans cette construction mentale que les instructeurs appelaient la grande synthèse. Cela requérait une patience que les non-mentats n'auraient même pas pu imaginer. Dans les écoles de mentats, on désignait cela sous le nom de persévérance. Il fallait être un pisteur primitif, capable de déchiffrer les signes les plus infimes, les perturbations les plus minuscules de l'environnement, et de les remonter jusqu'à leur source. En même temps, il fallait demeurer ouvert aux grands mouvements de l'extérieur comme de l'intérieur. Tout cela concourait à produire un état de réceptivité naïve qui était l'attitude de base du mentat, apparentée à celle du diseur de vérité, mais beaucoup plus vaste dans son champ d'action. Vous êtes ouvert à tout ce que l'univers pourra décider de faire, disait son premier instructeur. Votre cerveau n'est pas un ordinateur, c'est un outil de décision couplé à tout ce que vos sens peuvent lui apporter. Idaho savait reconnaître le moment où Beyonda ouvrait ses sens. Elle se tenait devant lui, le regard légèrement distant, et il savait que peu d'idées préconçues lui encombraient alors l'esprit. Il se protégeait derrière le point faible de Beyonda. Ouvrir ses sens exigeait un idéalisme auquel elle était étrangère. Elle ne posait pas les questions qu'il fallait, et c'était pour lui une source d'étonnement. Audrade se reposait-elle sur un mentat imparfait? Je cherche les questions qui forment les meilleures images. En faisant cela, on n'avait jamais le sentiment d'être particulièrement habile, de posséder la formule capable de fournir la solution. On demeurait au contraire réceptif aux nouvelles trames et aux nouvelles questions. Essayer, réessayer, façonner, refaçonner sans cesse. Un processus constant, jamais interrompu, jamais satisfait. C'était une pavane personnelle, analogue à celle des autres mentats, mais unique en ce qu'elle reposait sur des figures et des pas qui n'appartenait qu'à un individu donné. Nul n'est jamais tout à fait un mentat. C'est ce que l'on appelle la quête sans fin. Ces paroles de ses instructeurs étaient profondément gravées en lui. Tandis qu'il accumulait ses observations sur Beyonda, il en vint à mieux apprécier l'un des jugements portés par les grands maîtres avec qui il avait étudié son art. Les révérendes mères n'ont jamais fait et ne feront jamais de très grands mentats. Aucune Bene Gesserit ne paraissait en effet capable de s'abstraire entièrement du lien absolu qu'elle avait contracté en subissant l'agonie de l'épice, la loyauté envers la communauté des sœurs. Les maîtres de Duncan Idaho l'avaient mis en garde contre les absolus. Ils créaient de graves failles chez un mentat. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et ressentez relève de l'empirisme. Il n'y a pas de déduction finale. Rien ne s'arrête avant d'être tout à fait mort. Et encore, ce n'est même pas certain, car chaque vie donne naissance à un train d'ondes ininterrompues. L'induction rebondit en vous comme un écho et vous sensibilise à outrance. La déduction vous apporte l'illusion des absolus. N'ayez pas peur de bousculer la vérité et de la faire éclater. Quand les questions de Beyonda avaient trait aux relations entre Murbella et lui, il percevait chez elle de vagues réactions émotionnelles, de l'amusement, de la jalousie. Il admettait à la rigueur un certain amusement, et pourquoi pas de la jalousie, à propos des contraintes de cette dépendance sexuelle à double sens. L'extase est-elle si puissante que ça, après tout? Il errait ce jour-là dans ses quartiers en se sentant étrangement déplacé, comme s'il venait d'arriver et n'acceptait pas encore l'idée que sa seule demeure était ici. c'est une réaction trop subjective. Durant ces années de détention, ces lieux avaient fini par prendre un aspect résidentiel. C'était son antre, l'appartement de l'ancien subrécargue. De grandes pièces aux parois légèrement incurvées, une chambre à coucher, un bureau bibliothèque, un salon, une salle de bain décorée de carrelage vert et équipée d'un double système de lavage avec eau ou bien à sec. Il partageait également avec Murbella une longue salle d'entraînement pour leurs exercices physiques. Toutes ces pièces portaient la marque indubitable de sa présence sous diverses formes. La manière, par exemple, dont ce siège pliant était placé selon un angle précis par rapport à la console et au projecteur qui le reliait au système du non-vaisseau, ou bien les dossiers réduliens posés sur cette table basse. Il y avait aussi les tâches qu'il avait faites. Cette auréole brune sur son bureau. Il avait renversé une boisson qui avait laissé une trace indélébile. Il marchait nerveusement de long en large dans ses appartements. La lumière était tamisée. Le don qu'il avait d'identifier les objets familiers était également valable pour les odeurs. Il percevait celle de la salive sur les draps de son lit. Témoignage du choc sexuel de la nuit dernière. Un choc, c'est le seul mot qui convienne. L'air du non-vaisseau, filtré, recyclé, parfumé, le fatiguait. Aucune ouverture du réseau dédaléen du non-vaisseau ne demeurait longtemps branchée sur l'extérieur. Parfois, il restait de longs moments assis à humer l'air silencieusement, à la recherche de la moindre trace qui eût échappé aux exigences du conditionnement de sa prison. Il existe un moyen de fuir. Il sortit nonchalamment de la pièce, suivit la coursive, emprunta le tube de descente qui se trouvait tout au bout et se retrouva au niveau inférieur du non-vaisseau. Que se passe-t-il réellement dans cet univers à ciel libre? Les bribes de renseignements qu'Audrad voulait bien lui communiquer sur les événements du dehors le remplissaient d'appréhension et du sentiment d'être pris au piège. Aucun endroit où aller. Ai-je bien fait de partager mes craintes avec Shiana? Murbella s'est moquée de moi. Je te protégerai, mon amour. Les honorés matriarches ne me feront pas de mal. Encore un rêve fallacieux. Mais Shiana, avec quelle facilité elle a pris goût au langage gestuel et à l'esprit de cette conspiration? Conspiration? Pas vraiment. Je doute qu'une seule révérende mère puisse se retourner contre ses sœurs. Même Jessica, à la fin, est rentrée dans le droit chemin. Mais je n'ai jamais demandé à Shiana de se tourner contre le Bene Gesserit. Je veux seulement qu'elle nous protège de la folie de Murbella. Les énormes pouvoirs des furies ne laissaient prévoir que la destruction absolue. Pour un Mentat, il n'était que de considérer la violence disruptive qu'elles apportaient. Mais ce n'était pas tout ce qu'elles avaient à offrir. Elles évoquaient par leur présence d'autres forces mystérieuses appartenant à la dispersion. Qu'étaient donc ces futards dont Audrad parlait avec tant de désinvolture? Mi-bête, mi-homme? C'était Lucille qui avait émis cette supposition. Mais où est Lucille en ce moment? Il se trouva bientôt dans la Grande Soute, ce vaste hangar de plus d'un kilomètre de long qui avait abrité les derniers vers géants de dunes quand ils avaient fait le voyage jusqu'au chapitre. L'endroit était encore imprégné d'une odeur de sable et d'épices qui lui donnait la nostalgie d'une époque lointaine et révolue. Il savait très bien pour quelle raison il venait si souvent dans la Grande Soute, parfois sans même se rendre compte, comme à présent, de l'endroit où ses pas le menaient. Il était à la fois attiré et repoussé par ces lieux. L'illusion d'un espace illimité avec ses traces de sable, de poussière et d'épices lui rappelait sa liberté perdue. Mais il y avait quelque chose d'autre. Et c'était toujours là que cela se produisait. Cela va-t-il encore m'arriver aujourd'hui? Sans la moindre transition, il perdait toute conscience de se trouver à l'intérieur de la Grande Soute. Il voyait brusquement un filet aux mailles miroitantes sous un ciel plombé. Il savait cependant, au moment où la vision survenait, qu'il ne voyait pas vraiment ce filet. C'était son cerveau qui traduisait ce que ses sens étaient incapables d'interpréter. Un filet miroitant, ondoyant comme une aurore boréale infinie. Puis le filet s'entr'ouvrait et il voyait les deux êtres. Un homme et une femme, comme leur aspect était à la fois ordinaire et extraordinaire. Un grand-père et une grand-mère habillés à l'ancienne, une salopette avec une bavette pour l'homme et une longue robe avec un fichu pour la femme. Il travaillait dans un jardin de fleurs. Idaho était sûr qu'il n'y avait pas là qu'une simple hallucination. C'est ce que je vois, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a sous mes yeux. L'homme et la femme finissaient toujours par remarquer sa présence au bout d'un moment, et Idaho les entendait parler.
Il est encore là, Marty, disait l'homme en attirant l'attention de sa compagne sur Idaho.
Je me demande comment il fait pour voir à travers, avait dit une fois celle qui s'appelait Marty. Ça me paraît vraiment incroyable.
C'est parce qu'il est singulièrement dilué, je pense. Je me demande s'il se rend compte du danger.
Danger ? C'était le mot qu'il arrachait généralement à sa vision.
Vous n'êtes pas à votre console aujourd'hui ?
L'espace d'un instant, Idaho avait cru que c'était la vision, la voix de cette étrange femme. Puis il s'aperçut que c'était en réalité Audrad. Elle était juste derrière lui. Il fit brusquement volte-face et se rendit compte qu'il avait oublié de refermer le panneau d'accès. Elle l'avait suivi jusque dans la soute, en marchant sans doute sur la pointe des pieds et en évitant les endroits où il y avait du sable, afin de ne pas se trahir en le faisant crisser. Elle avait l'air lasse et impatiente.
Qu'est-ce qui lui fait croire que j'aurais dû être devant ma console ?
Comme si elle répondait à sa question muette, elle murmura
« Je vous trouve si souvent devant votre console ces temps-ci. Que cherchez-vous, Duncan ?»
Il secoua la tête sans répondre. Pourquoi cette soudaine sensation de péril ? C'était quelque chose qu'il éprouvait rarement en compagnie d'Audrad. Mais il y avait eu d'autres occasions dont il avait gardé le souvenir. Par exemple, la fois où elle avait regardé longuement ses mains, d'un air soupçonneux, alors qu'elle reposait encore dans le champ de la console.
« Elle a peur de ce que je peux faire avec ça. Ai-je trahi la soif de donner d'un mentat ? Sont-elles capables de deviner que j'ai dissimulé ici mon moi le plus profond ?»«
Je n'ai donc droit à aucune vie privée ? » fit-il en se tournant furieusement vers elle.
Elle secoua lentement la tête comme pour dire « Je m'attendais à mieux de votre part. »
« C'est votre seconde visite aujourd'hui, » accusa-t-il.
« Je dois dire, Duncan, que vous avez une excellente mine. »
Encore des circonlocutions.
« C'est ce que disent vos chiens de garde. »
« Ne soyez pas mesquin. Je suis venu pour parler à Murbella. Elle m'a dit que vous étiez ici. »
« Je suppose que vous savez qu'elle est encore enceinte. »
« Pourquoi lui avait-il dit ça ? Pour l'amadouer ?»« Nous en sommes ravis et reconnaissantes. » Mais je suis descendu vous dire que Shiana voulait encore vous rendre visite. Pourquoi Audrad éprouve-t-elle le besoin de venir m'annoncer cela ?